Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine du samedi, un magazine que la rédaction consacrera aujourd'hui au musée et à la cathédrale de Saint-Dié. Un musée Pierre Noël et une cathédrale qui seront exceptionnellement ouverts en nocturne samedi 14 mai prochain à l'occasion de la nuit européenne des musées. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a aussi la nuit des cathédrales. Une visite guidée que je vous invite à faire en compagnie du conservateur en chef du musée Pierre Noël de Saint-Dié, Daniel Grandidier, un passionné passionnant. C'est parti pour 30 minutes et on commence par s'égarer un peu dans la nef de la cathédrale.
Alors on va terminer vers le cœur. Alors faites attention, on marche. Alors dans ce cœur, vous avez deux peintures murales qui autrefois se faisaient face. Une qui faisait intervenir un pape, qui était le pape Léon IX, qui a exercé son pontificat dans la deuxième moitié du XIe siècle, entre 1049 et 1054. Et quelques semaines après sa mort, avait lieu le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Ce pape était originaire de notre région, de Dabo-Eggisheim, Brunon de Dabo-Eggisheim. Alors les Alsaciens disent qu'il venait d'Eggisheim, les Mosellans disent qu'il venait de Dabo, et nous ici, les Vosgiens, nous disons de toute façon, c'était un Vosgien, qu'il soit né à Eggisheim, ou à Dabo dans le massif des Vosges.
J'ai compris que vous veniez de Montréal, pour autant vous n'avez pas l'accent québécois.
Ce n'est pas Montréal au Québec, c'est Montréal dans l'Aude, Montréal de l'Aude, voilà. C'est un voyage dans toute la Lorraine, dans les Vosges, voilà.
Que pensez-vous de votre visite de la cathédrale et puis du musée Pierre Noël, si vous y avez déjà été?
On va y aller maintenant. Bah, disons, la cathédrale me surprend par la grandeur, et puis moi je trouve que nous avons un guide extraordinaire. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de connaissances et il sait les faire passer.
Qui êtes-vous, monsieur?
Eh bien, je suis notamment élu au sein de la municipalité de la ville de Saint-Dié-des-Vosges en tant que chargé de la valorisation du patrimoine, Benoît Larger.
Alors, vous semblez connaître de fond en comble cette cathédrale, son histoire.
Parce que, justement, plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose.
Alors, vous êtes historien de formation?
Entre autres. Mais j'ai plusieurs formations.
Pourquoi Saint-Dié participe à la nuit des musées et à la nuit des cathédrales, qui est beaucoup moins connue?
Eh bien, ça c'est une question à laquelle notre conservateur Daniel Grandidier sera heureux de vous répondre, c'est en fait lui qui l'a lancé avec notre directeur des affaires culturelles, Gérard Barbeau, depuis plusieurs années.
Oui, ils ne sont pas tous.
23, 24, 25.
Il y en a qui sont partis faire le shopping en ville.
25, nous sommes 25. Oh, 25, c'est bon. Allez, vas-y. Daniel.
Bah bonjour à tous. Ici, vous êtes au musée Pierre Noël, qui se compose de plusieurs collections, réparties sur trois niveaux. Donc le niveau rez-de-chaussée, vous êtes avec une exposition temporaire d'un peintre figuratif et non figuratif, très proche des vitraux de la cathédrale de Saint-Dié, qui s'appelle Roger Calixte Poupart. Ensuite, vous avez l'archéologie avec le camp celtique de la Bure, qui est situé sur la commune même de Saint-Dié-des-Vosges. Donc, archéologie préhistorique, si vous voulez, celtique ou gauloise et gallo-romaine. Ensuite, à l'étage en dessous, c'est-à-dire au sous-sol, vous avez la collection militaire franco-allemande, fin du 18e à la Seconde Guerre mondiale. C'est une très très grande salle, très très riche. Ensuite, vous rencontrerez les grands hommes de Saint-Dié du secteur, avec René Fonck, l'as des as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, les écrivains Claire et Yvan Gol, lui est né à Saint-Dié en 1891, Jules Ferry, que je ne vous présente pas, qui est né aussi en notre ville, et puis, juste sous nos pieds, une salle qui est dédiée à la destruction de la ville pendant la guerre, en novembre 1944, et la proposition de Le Corbusier, l'architecte Le Corbusier. Et vous ne serez pas quitte avec tout ça, puisque nous avons un étage au niveau plus 1, avec les oiseaux, principalement donc du nord de l'Europe, hein, enfin même jusqu'aux rives de la Méditerranée. Vous avez également une grande salle sur l'ethnographie, la vie d'autrefois, avec le travail autour du bois, hein, les schlites par exemple, typiques de nos montagnes, l'agriculture, l'élevage, les produits de la ferme. Et puis, pour terminer, vous avez en mezzanine les arts décoratifs avec de la faïence de Raon-l'Étape, donc une commune près d'ici, avec en particulier le service de la Reine de Roumanie, offert par le gouvernement français à la Reine de Roumanie en 1889, qui est décoré par Émile Gallet. Donc c'est un double, hein, parce qu'il y avait trois jeux qui avaient été faits. Et puis également un peu de faïence, de caillouteage, on appelle ça, de Gérard May. Donc des choses très très locales. Donc vous voyez, c'est un grand musée d'histoire du bassin de Saint-Denis. Bonne visite.
Et qui était M. Pierre Noël ?
Alors, Pierre Noël était le maire qui, dans les années 70, a fait construire ce musée pour abriter les collections qui sont à disposition du public maintenant.
Et en tant que journaliste porteur d'un micro, je suis un peu privilégié, puisque mon guide n'est autre que le conservateur en chef du musée, Daniel Grandidier, que vous venez d'entendre.
Daniel Grandidier, où sommes-nous ici ?
Alors nous sommes ici dans la grande salle d'exposition temporaire, qui présente jusqu'au 19 juin le peintre Roger Calixte Poupart. C'est un peintre qui est parti de la figuration, comme beaucoup, et qui, petit à petit, sous l'influence d'ailleurs de son travail sur le vitrail, est passé à la non-figuration, et nous avons choisi de présenter ce travail parce qu'il est tout à fait en adéquation avec les vitraux de la cathédrale contemporains, signés Bazaine, Nessier, Le Moal, qui sont à deux pas du musée. Ce sont des lignes de force, hein, rien n'est figuré, tout est suggéré. Toute une partie est réalisée sur les sentiments qui habitent l'homme, la révolte, vous avez la colère, etc. Et puis vous avez également des travaux beaucoup plus axés sur la spiritualité et en particulier sur cheminement vers la lumière, également le chemin de croix, la souffrance du Christ. C'est quelqu'un qui s'est fait baptiser assez tardivement. Il est né en 1911, il a été baptisé en 1938, et donc c'était un choix profond, hein, à cet âge-là. Et il a été profondément marqué par la Bible et tout ce qui gravite autour de la spiritualité.
Immense toile, elle est numérotée 36. Alors il y a un monsieur qui a l'air triste, pénétré, je ne sais pas, qui est en train de manier une pelle, ou plus exactement, il s'est arrêté, il est en train de creuser derrière. Oui. Il semblerait bien que ce soit un cimetière, mais ça me fait penser à un moment ou à un autre à l'Angélus.
Oui, ça peut être proche, effectivement, de l'Angélus. On voit un homme donc sur une toile de grand format, qui est penché un peu vers la terre, de manière pensive. C'est le fossoyeur, hein, donc vous reconnaissez, donc il creuse une tombe. Cette toile, en fait, c'est la première qui a été peinte par Poupart. Quand même un drôle de choix. Déjà, le thème, hein, le fossoyeur, il avait 17 ans à l'époque. Hein, et en plus, s'attaquer à un tel format, c'est quand même 2 mètres de haut à peu près, sur 1 mètre 50. C'est déjà un format généreux, et pour un peintre débutant, c'est courageux. Il est hanté par la mort, et ensuite, ça va être un peu la marque de toute sa carrière, puisqu'on retrouve les souffrances du Christ, par exemple, dans les peintures non figuratives. Il avait fait un chemin de croix en gravure également dans les années 30. Donc on voit, hein, la permanence de cette réflexion, de ce thème. Mais paradoxe de cette carrière, quand il va se sentir condamné parce qu'il est atteint d'un cancer dans les années 70, hein, il mourra en 77, eh bien sa peinture est de plus en plus épurée et de plus en plus lumineuse. Et d'ailleurs, si le premier titre c'est Le Fossoyeur, les derniers titres c'est Vers la lumière.
Ce qui est aussi le titre de l'exposition que vous lui consacrez.
Et on a opté pour ce titre, effectivement, dans la mesure où c'est un cheminement. Donc le cheminement c'est la lumière, eh bien on a dit ça sera vers la lumière.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. pas nager le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains, on s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet. Une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. Attendez-moi.
Le magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Retour dans le musée Pierre Noël de Saint-Dié et après la salle des expos temporaires et la première toile de Poupart, on change de décor. Toujours en compagnie du conservateur en chef du musée, Daniel Grandidier.
Nous sommes en fait dans la salle d'archéologie, qui est la première salle des collections permanentes, qui traite la Déodacie, donc le bassin de la Haute-Meurthe, hein, autour de Saint-Dié-des-Vosges. Et la Déodacie, ici, c'est une terre de conflits. On s'est toujours battu depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, mais c'est également une terre d'échange. Et c'est le premier thème qui est développé dans ces collections permanentes, en commençant par l'archéologie, donc par le début, par la préhistoire, et ensuite les vestiges que nous ont laissés les Celtes, ou les Gaulois, comme vous voulez, et ensuite, à l'époque gallo-romaine, les gens qui se sont établis dans notre région, en particulier au camp celtique de la Bure, sur la commune même de Saint-Dié, mais également à Étival-Clairefontaine, à la Pierre d'Appel et sur d'autres sites de hauteur.
Ce fameux camp de la Bure, on en parle énormément, il a fait l'objet de très longues fouilles, de très longues années. Qu'a-t-on appris?
Alors on a appris beaucoup de choses, mais on n'a pas tout appris, parce que par exemple, si nous avons une belle collection de stèles funéraires, nous n'avons toujours pas trouvé la nécropole, c'était des pierres qui étaient réemployées dans le rempart. Donc vous voyez que les objets, ils ont évolué, ils ont connu une deuxième et maintenant une troisième vie, ici même au musée. Donc il y a plein d'enseignements, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Ce que l'on sait, c'est que la Bure était donc à 580 mètres d'altitude. C'était un site de hauteur, comme il y en a tant d'autres, au-dessus de Gétival, comme je l'ai dit. Également le Chasté ou le Chastel au-dessus de Tintru. Il y en a plusieurs comme ça dans la région. Ce sont des postes d'observation, des postes de repli également, lorsque le danger arrive. Et puis, on y travaille. Hein. Par exemple, on y travaille le fer, tout du moins au IVe siècle de notre ère. On a retrouvé beaucoup d'objets en fer, on a trouvé des enclumes, on a trouvé la stèle du forgeron. Donc on atteste bien par tous ces objets c'est ce travail artisanal qui a été fait sur ce site. Sur d'autres points, on a retrouvé le quotidien avec les armes, avec la vaisselle, avec les parures, les bijoux. On a trouvé également sur ce site des sortes de citernes pour accueillir l'eau. Et on a même quelques statues qui ont été retrouvées, en particulier des fragments d'un cavalier d'Angupède. On en a même trouvé trois, mais un est peut-être plus important ici, bien qu'il soit à l'état de fragment, avec la belle tête bien régulière du cavalier, et puis le cheval grimaçant sous l'effet du mort que tire le cavalier.
Ce qu'on retire de la visite de cette salle, c'est que manifestement, on est très très loin de la caricature très, très amusée et amusante des Gaulois que nous avaient proposé messieurs Uderzo et Goscinny, joyeux paillards, mais finalement franchement incultes.
Disons que la bande dessinée a beaucoup adapté, adapté pour faire rire déjà, tout le décalage des anachronismes que l'on peut déceler dans cette bande dessinée. On y retrouve bien sûr quelques caractéristiques plus ou moins vraies ou plus ou moins faux de nos ancêtres, les Gaulois, comme on dit. En particulier, tout le monde imagine que les huttes gauloises étaient rondes, donc dans Astérix, elles sont rondes aussi. Et bien sûr, les stèles maisons que l'on a trouvées à la Bure et dans d'autres lieux, dans tous les musées de l'Est de la France, il n'y en a pas une qui soit ronde, elles sont toutes rectangulaires. Donc voilà, on remet l'archéologie est là pour remettre aussi les choses en place. L'imaginaire et le folklore d'un côté, il y a l'histoire de l'autre. Mais voici venir un archéologue.
Bonjour.
Jérémy, bénévole et étudiant en archéologie à l'université de Strasbourg.
Vous faites des recherches ici, au musée ou au camp de la Bure ?
Recherche, ouais, je fais mon master 2 sur la céramique de la pierre d'appel, en fait, du site de hauteur de la pierre d'appel, dans le cadre d'un master 2. Et puis je reprends toute la céramique découverte pendant les 13 années de fouilles de la pierre d'appel.
Alors, petit exercice, non pas universitaire, mais journalistique. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre, justement, sur cette céramique ?
En fait, c'est reconstituer le vaisselier des Gaulois et puis des Gallo-Romains qui ont occupé la pierre d'appel pour connaître l'influence et puis les échanges avec le monde extérieur et le bassin de Saint-Dié, quoi, entre guillemets. Et puis, ça permet de voir la vaisselle de table, la vaisselle de consommation, la vaisselle qui sert pour le transport, justement, des denrées, vaisselle de stockage, on a plein de choses intéressantes à voir, et ça permet de recréer la société de l'époque, quoi, en fait, d'avoir un petit aperçu sur les Gaulois qui ont mangé à la pierre d'appel, quoi, et qui vivaient là-haut.
Est-ce que c'était une société qui échangeait, ou alors est-ce qu'elle était plutôt repliée sur elle-même ?
Ah non, c'est une société qui échangeait. Là, vous avez des amphores donc, qui viennent de la Bure, qui viennent de la pierre d'appel, donc des amphores italiques, donc qui viennent du monde italique. Vous avez du dolium, qui est des vases, qui sont des vases de stockage, en fait, de type grec, qu'on retrouve celui-ci à la pierre d'appel. Donc là, ça, c'est des choses qui viennent de très très loin. Ça prouve que la pierre d'appel, le bassin des Audaciens en général, est ancré dans un système de commerce international, quoi.
L'Europe avant l'heure.
L'Europe avant l'heure, c'est ça.
Donnez-nous une bonne raison pour venir visiter un musée.
Les bonnes raisons, ici, le côté exceptionnel des collections, puisqu'il y a plus de 800 objets en fer qui ont été trouvés à la Bure, il y a plus de 1300 monnaies qui ont été trouvées donc sur le camp celtique de la Bure, ce qui n'est pas courant. Et puis pour le...
Dans un quart de celtique.
Dans un quart de monnaie celtique, et ce qui fait du camp celtique de la Bure le deuxième site du département des Vosges. Donc à venir voir, et à côté de ça, des sites comme la Bure, on en a une dizaine tout autour de Saint-Dié-des-Vosges. Donc voilà, quoi, c'est une région riche en patrimoine, et en archéo et en histoire, donc à venir voir, quoi.
qu'est-ce qui vous a poussé dans ces études?
La passion depuis tout gamin de chercher, de farfouiller, et puis la céramique, voilà, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus sur les sites, et c'est le mobilier sur lequel j'ai accroché depuis maintenant un certain temps, quoi.
Daniel Grandidier, nous avons la nuit des musées en perspective le 14 mai à venir, mais ça n'est pas tout en ce qui concerne le département d'archéologie du musée Pierre Noël.
Alors, à 8 jours de distance, c'est vrai que le mois de mai est très chargé pour le patrimoine, puisque les 21, samedi 21 et dimanche 22 mai, nous avons les journées de l'archéologie, qui sont une idée du ministère de la Culture et de la Communication, avec le concours de l'INRAP, donc l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, hein, et puis également la chaîne de télévision Arte. Alors l'an dernier, c'était l'INRAP et Arte, maintenant le ministère s'est joint, donc c'est de plus en plus officiel. Et on a un partenariat, nous, en tant que musée Père Noël avec l'INRAP, un partenariat permanent depuis les premières journées l'an dernier. Et là, il y aura des visites des collections archéologiques, bien sûr. Il y aura également une petite exposition légère qui va remplacer l'actuelle qui date déjà de l'an dernier. Celle-ci sera transportée sur le camp celtique de la Bure, où on attend également du monde, avec là-haut sur le site des animations, l'armement gaulois, comment se battaient les Gaulois, différents ateliers également artisanaux autour du textile, autour peut-être du bronze aussi.
À partir de quel âge on peut s'y intéresser à ces journées de l'archéologie ?
Très jeune, puisque des films nous seront prêtés, et il y a une série pour les adultes et une série également pour les enfants. Je pense qu'à partir de 6-7 ans, l'archéologie c'est quelque chose d'assez merveilleux. On gratte le sol, on peut trouver des choses, donc c'est un peu mythique et ça marche très très bien auprès des enfants.
Le magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Something right this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend who might know better than me. She says she worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't we be happy? Nobody tell you the reason why I ask. I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all, but your money is to complain. Why not live this life while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. Why can't we be happy?
Après avoir évoqué la richesse de l'époque gallo-romaine, des Celtes, du camp de la Bure, des échanges commerciaux nombreux qui existaient, nous voici au temps des belligérances, l'histoire militaire très riche. Retour au musée Pierre Noël, en compagnie de notre guide, son conservateur en chef, Daniel Grandidier.
Nous sommes maintenant dans la collection militaire franco-allemande, au sous-sol, et cette collection, elle démarre à peu près à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, et elle se déploie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 1945. La particularité de cette collection, c'est qu'elle est franco-allemande. Donc d'un côté, vous avez l'armée française qui se déploie dans son évolution, de la fin du XVIIIe siècle à 1945, et puis de l'autre côté, vous avez l'évolution de l'armée allemande des années 1860, un peu de temps avant la guerre de 70, jusqu'à 1945 également. Ça permet de voir l'évolution de chaque pays, son armement, et ça permet également de comparer face à face les deux belligérants qu'étaient la France et l'Allemagne, en particulier avec les trois guerres de 1870, la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Dans cette collection, on trouve beaucoup d'uniformes, d'armements, d'objets également du quotidien, en particulier quand on arrive vers le XXe siècle. Mais c'est une collection qui continue à s'enrichir. Pas au quotidien, mais presque, sur l'ensemble des collections, quasiment. Et de temps en temps, nous avons une pièce qui arrive, ou alors carrément une collection complète, comme ces douilles d'obus, qui avaient été collectionnées par une personne de Sainte-Marguerite. Et à son décès, la question s'est posée à la famille, que faisons-nous tout cela? Est-ce qu'on la vend? Est-ce que, etc. Et finalement, disant, Saint-Dié a un musée militaire important, une collection militaire importante, et si on leur confiait, ça leur ferait une collection tout à fait remarquable, parce que c'est quand même des années et des années de recherche, hein, c'est quand même du travail. Nous avons également une collection de soldats de plomb. Une autre donation, assez ancienne également, on va des Gaulois jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à la Troisième République. Donc là, on a toute l'évolution de l'armée française en petit format.
C'est la maquette de la muséographie rêvée du département militaire du musée Pierre-Noël.
Oh, disons qu'on n'oserait pas imaginer quand même des défilés de régiments, même le musée des Invalides n'oserait pas ceci. Mais bon, ça permet de voir effectivement des corps constitués défilant, donc ce qui a quand même une allure certaine.
L'évolution de cette muséographie, alors le monde des machines à tuer de plus en plus sophistiquées, des uniformes, vous l'avez dit, qui permettent de mieux en mieux le camouflage, la mobilité. On arrive finalement, là tout au fond, on le voit, la période de sinistre mémoire nazie, période aussi qui termine sur la destruction quasi totale de Saint-Dié. Alors est-ce qu'ici, au musée Pierre-Noël, on a des témoignages, sous forme d'objets, de photographies, de cette destruction qu'a connue Saint-Dié?
Oui, bien sûr, parce que en fait, cette salle d'histoire militaire, en fait, elle a plusieurs corollaires hein, qui vont se greffer, en particulier la destruction de la ville en 1944, c'est la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec la destruction de la ville du centre historique qui datait du XVIIIe siècle pour la rue principale, la rue Thiers, destruction également du quartier canonial autour des églises qui datait, lui, du XVIe, XVIIe siècle. Donc il ne reste plus grand-chose de tout cela. Hein, tout a été reconstruit dans les années 50, mais Le Corbusier avait préconisé un plan de reconstruction que nous présentons avec quelques plans et en particulier une maquette, copie en couleur de la maquette officielle qui est conservée à la Fondation Le Corbusier à Paris. Et puis également l'œuvre construite par Le Corbusier ici même à Saint-Dié, la seule usine qui lui ait jamais été commandée et qui est à deux pas de la cathédrale, à deux pas du musée Pierre-Noël.
Ici, surprise, dans un musée, voici une salle de classe
primaire, on va dire, d'autrefois. Alors, c'est vrai que l'école, ça fait partie de l'histoire, hein, et en Saint-Dié en particulier, puisque c'est une introduction à la vie et l'œuvre de Jules Ferry. Alors, on connaît bien sûr tous Jules Ferry avec son instruction gratuite, laïque et obligatoire, mais bon, c'est très réducteur, hein, puisqu'il a réformé tout le système scolaire français. Hein, c'est lui qui a permis, par exemple, aux jeunes filles de faire des études, par exemple. Ça, on l'oublie souvent, hein, on reste trop bloqué sur l'école primaire. C'est également quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre, hein, président du Conseil, donc Premier ministre, qui a été ministre de l'Instruction publique, certes, ministre des Affaires étrangères, au plus violent, on va dire, de la colonisation, l'affaire du Tonkin en particulier, hein, qui est un peu cause de sa chute politique, mais bon, il va revenir au premier plan en devenant le deuxième personnage de l'État, puisqu'il sera élu vraiment à toute fin de sa vie, début 1893, président du Sénat, qui est le deuxième personnage de l'État, comme vous le savez. Jules Ferry, donc carrière nationale, son frère également, qui va être dans la finance, mais également dans la politique, et le fils de celui-ci, le fils de Charles, Abel, donc le neveu de Jules, qui sera également homme politique, puisqu'il sera sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, par exemple. Donc il y a toute une dynastie, et puis également des gens qui font fortune, bien sûr, par leur tuile, mais qui vont devenir avocats, etc. Donc la naissance là, d'une bourgeoisie et d'une classe politique à Saint-Dié même.
Alors, qui continue ou non? Démentez-nous ou confirmez-nous, est-ce que Luc Ferry appartient à la lignée des fameux Ferry de Saint-Dié?
Alors, nous sommes justement devant l'arbre généalogique. Alors déjà, Jules Ferry n'ayant pas eu de descendants, donc de ce côté-là, il n'y a rien à trouver. Alors du côté de Charles, effectivement, il y a des descendants encore à l'heure actuelle, des descendants donc de Charles, Abel, etc. Frenette Pisani Ferry, l'épouse d'Edgar Pisani. Le couple a eu deux enfants qui vivent toujours, mais le Luc Édouard Albert Jules n'est pas le Luc Ferry que nous connaissons.
Voilà, donc Luc Ferry n'est pas un descendant du Jules Ferry que nous connaissons, en tout cas pas qu'on sache.
Ou alors par d'autres branches beaucoup plus anciennes, mais en filiation ou plus ou moins directe, hélas non pour lui.
Comme quoi, c'est parfois dans un musée qu'on peut trouver des réponses à des questions très actuelles.
Quelle est la place des musées dans notre monde ? À quoi ça nous sert aujourd'hui ?
Ben, ça sert déjà à restituer l'histoire aux gens de la région, de Saint-Dié et de la région proche, puisque c'est un musée, on va dire, de pays. Hein, c'est le musée de la Déodacie dans son ensemble. C'est un outil de rayonnement également, parce que nous avons une histoire que nous la connaissions, c'est bien, de la faire connaître aux autres, et mieux encore, c'est un vaste réseau d'échanges, ça bouge, et il faut venir en profiter.
Et pour en profiter, rendez-vous au musée Pierre-Noël, samedi 14, de 20h à 24h, et bien sûr, l'entrée est gratuite. Et pour en savoir plus, je vous invite très vivement à vous référer à notre site internet www.cocktailfm.com, rubrique info, onglet Mac du samedi. Dans un instant, d'autres informations nationales et internationales. Celle-ci, passez un très bon week-end à l'écoute de nos programmes.